Depuis le début, il y a un lobby gay.
Un énorme, a priori, lobby homosexuel à l'intérieur du Vatican.
Le député de Paris qui a dit, sur cette affaire, le lobby LGBT est à la manœuvre.
Il serait, selon les uns ou les autres, puissant à l'Assemblée nationale, dans les rouages de la mairie de Paris, voire dans les instances du Front National. Le lobby gay est partout, ce groupe d'influence supposé faire pression sur les dirigeants politiques ou économiques pour favoriser le traitement des questions liées à l'homosexualité, qui dans un parti, qui dans une ville, qui dans un pays. La LGBT serait donc à la manœuvre, puissant levier de cooptation dans les sphères artistiques, culturelles, politiques et évidemment germanopratines, parisiennes ou bobos, rayer la mention inutile. Existe-t-il un ou plusieurs groupes de pression calqués sur le fonctionnement des lobbies économiques qui œuvrent pour promouvoir les intérêts des entreprises qu'ils représentent ? Bonjour Sylvie Tissot.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur au département de sciences politiques de l'Université Paris 8, autrice de Gay Friendly, acceptation et contrôle de l'homosexualité à Paris et New York. C'est aux éditions Raison d'agir. Alors est-ce qu'il existe un lobby LGBT ?
Non, il n'existe pas de lobby LGBT, mais je crois que pour répondre à cette question, il faut faire un petit retour par l'histoire et se souvenir que cette expression, elle s'inscrit dans toute une terminologie plus large qui vise, depuis plusieurs décennies maintenant, à disqualifier des mouvements gays, lesbiens, bi et trans, toute une terminologie empreinte d'homophobie, une terminologie donc avec lobby LGBT, mais aussi lobby homosexuel, lobby gay, mafia gay, des expressions qui sous-tendent toujours l'idée qu'il y aurait une force agissante, secrète, malfaisante, qui saperait les fondements de la démocratie. Et cette manière de voir et ces discours sont particulièrement présents après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais beaucoup aux États-Unis, où les homosexuels incarnent les ennemis intérieurs, au moins autant que d'ailleurs que les communistes, incarnent l'ennemi intérieur, une force qu'il faudrait démasquer. Et d'ailleurs, c'est une période où on traque de manière extrêmement violente les gays et les lesbiennes dans l'armée, dans l'administration fédérale, etc.
On parle du Comintern, hein, en référence au Comintern communiste, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui.
Évidemment, le lobby gay, ça renvoie à un autre lobby historique que l'on suspecte à peu près les mêmes choses, c'est le lobby juif.
Oui, et d'ailleurs, il y a des similitudes entre les deux discours. D'un côté, un discours qui est empreint d'homophobie, de l'autre, un discours qui est empreint d'antisémitisme et qui, là encore, suppose une force toute puissante, agissant en secret, alors qu'il s'agit dans les deux cas d'un groupe opprimé et stigmatisé.
Alors, néanmoins, il existe des associations, des structures communautaires qui militent auprès des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, pour la reconnaissance des droits de ces minorités.
Oui, tout à fait. Elles existent depuis longtemps d'ailleurs. Et dans les années 70, elles émergent avec beaucoup plus de visibilité, avec une demande de fierté, de visibilité. Paradoxalement, c'est aussi au moment où elles revendiquent plus, ces mouvements revendiquent plus de visibilité, que cette terminologie et ces accusations de lobby et d'action secrète vont redoubler de vigueur. De façon assez paradoxale, c'est quand des individus sont visibles qu'on leur reproche finalement d'agir de façon souterraine.
Mais finalement, alors quelle est la différence entre des associations communautaires qui militent pour les droits de ces communautés, de ces minorités, et un lobby, c'est le même travail ?
Déjà, ça désigne pas les mêmes individus, et je crois que c'est très important de dissocier les deux termes et de les utiliser à bon escient. Je pense que le terme de lobby doit être réservé à des groupes d'intérêt portés par des groupes qui ne sont pas discriminés, qui ne sont pas stigmatisés, comme le sont les gays, les lesbiennes, les bi et les trans, et qui font avancer leur cause de manière en effet souvent secrète. On peut penser au lobby des chasseurs, dont on a beaucoup parlé récemment.
Mais quelle différence, par exemple, entre le lobby des chasseurs et un lobby LGBT ? C'est le même travail auprès du gouvernement, du président de la République, pour faire valoir ses droits, non ?
Je ne pense pas qu'en ce qui concerne les chasseurs, on puisse parler de droits. Je pense que là, on peut tout à fait parler, au contraire, de privilèges, voire de passe-droits, et des revendications qui n'ont rien à voir. Les gays et les lesbiennes demandent l'égalité des droits. Elles demandent aussi, tout bêtement, le droit à ne pas être tabassées, parfois ne pas être tuées. Pour les trans, notamment, alors que les chasseurs revendiquent le droit de tuer des animaux et puis vie incidemment aussi, à ne pas être trop embêté quand le dimanche, ils en viennent à tuer d'autres êtres vivants que sont les promeneurs et les promeneuses du dimanche.
Mais ça, c'est un peu caricatural, parce qu'on peut dire finalement ce que demandent les chasseurs, c'est finalement le droit d'exercer leur sport, de réguler le gibier. Enfin, finalement, j'ai du mal à percevoir la différence qu'il peut y avoir entre vouloir obtenir des avantages pour sa communauté, pour son groupe, d'un côté ou de l'autre, Sylvie Tissot.
Bah parce que les revendications des gays et des lesbiennes ne nuisent absolument pas au reste de la société. Alors, c'est des revendications qui ébranlent un ordre moral et un ordre social, en effet, mais c'est un ordre moral, social, familial aussi, qui repose sur une inégalité, une hiérarchisation des sexualités. Ce que revendiquent les mouvements gays et lesbiennes, c'est tout simplement une égalité, une société plus démocratique, plus inclusive. C'est finalement des revendications très universalistes.
Alors, par exemple, quand les associations pendant le mariage pour tous sont reçues directement à l'Élysée par le président de la République pour essayer de faire valoir leurs droits, en quoi cette démarche-là est différente d'une démarche de lobbying ?
Bah, c'est une démarche qui vise à faire avancer en effet une cause. C'est une démarche qui est tout à fait transparente, je dirais. Tandis que le lobbying sous-entend, je pense, une action qui n'est pas qui agit par des canaux détournés. Et qui, de ce fait-là, est très différente de ce qu'ont toujours fait les mouvements gays et lesbiens, à la fois d'agir en direction du pouvoir politique, mais aussi dans la sphère publique, à travers des manifestations, à travers la revendication de visibilité, de fierté, etc.
La distinction qui se fait entre le lobbying et le militantisme ou les mouvements associatifs communautaires, c'est vraiment un rapport de dominance, de domination sur dominée, de population minoritaire sur population majoritaire ?
Je pense qu'en réalité, c'est des termes qui ont des connotations très différentes. C'est pour ça que je pense qu'il faut être très très attentif aux mots qu'on emploie. Le terme lobbying, je pense qu'il peut être utilisé de façon neutre, mais il y a des termes aujourd'hui qui sont tellement connotés et qui ont été tellement captés par la droite, voire l'extrême droite, qu'il faut être extrêmement prudent et que les connotations sont très problématiques et charrient un discours discriminatoire et stigmatisant. C'est pour ça que moi je revendiquerais un rapport très précautionneux à ce terme et utiliser d'autres termes. Il y en a beaucoup qui existent.
Par exemple, pour
qualifier le militantisme, l'activisme, l'action collective, etc.
Il est souvent noté qu'il y a certaines sphères politiques, sociales, artistiques, culturelles, où les populations LGBT sont plus nombreuses que dans la moyenne de la population usuelle. Et on dit et on entend dire à propos du lobby LGBT qu'effectivement ces milieux-là, notamment artistiques, culturels, les médias, pour ne parler que de nous, sont noyautés par des lobbies LGBT. Est-ce que c'est une réalité sociologique et que faut-il en penser, Sylvie Tissot ?
Moi, je nuancerais immédiatement ce constat, c'est-à-dire que dans des milieux plutôt favorisés, où l'homophobie est moins importante, ou en tout cas prend des formes moins brutales, les gays, les lesbiennes, les bi et les trans peuvent plus facilement être out, c'est-à-dire dire leur orientation sexuelle. Ce qui ne veut pas dire que dans d'autres sphères de la société, il et elle n'existent pas, bien au contraire, mais disposant de moins de ressources, sans doute, pour faire face à la stigmatisation, il y a une plus grande difficulté à être visible, ou en tout cas avec des formes qui vont être plutôt peut-être plus subtiles, plus nuancées et plus précautionneuses. Là encore, je pense qu'il faut nuancer ce constat-là et vraiment l'appréhender par rapport à où est-il possible d'être ouvertement gay et lesbienne.
Merci beaucoup Sylvie Tissot. Je rappelle que vous êtes sociologue, professeure au département des sciences politiques de l'Université Paris 8 et autrice donc de Gay Friendly, acceptation et contrôle de l'homosexualité à Paris et New York. C'est aux éditions Raison d'agir.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.